préparé un conte pour les enfants, mais à part Amélia que je vois depuis ici, je ne sais pas s'il y a d'autres enfants dans l'auditoire, mais il y en a certainement plein de grands enfants, dont je suis d'ailleurs. Je suis toujours touché encore grand et vieux par certains contes. J'ai toujours été féru d'Andersen, notamment, et de ses contes. Mais là, je vais vous raconter un conte plutôt indien. C'est une histoire qui se passe chez les Indiens d'Amérique. À l'époque, les enfants devaient passer, enfin les garçons en tout cas, une épreuve de courage. Donc, on a amené un garçon indien dans la forêt et il devait passer la nuit tout seul dans la forêt. Vous vous imaginez ? Je ne sais pas si, moi je le premier d'ailleurs, si j'aurais envie de passer la nuit tout seul au milieu de la forêt. Et puis certainement pas là où il y a plein de bruit, où il y a des animaux sauvages, comme c'était certainement à l'époque encore le cas. Il entend des craquements des branches, et puis le hibou qui fait des bruits, le coyote qui aboie. Bête de trouille. Alors la nuit passe, elle se termine, le jour se lève, et puis tout près de lui, à quelques mètres, il voit une silhouette qui lui est familière. Il reconnaît son grand-père. C'est lui, son grand-père, qui a veillé sur lui toute la nuit. Donc il n'était pas seul. Il a veillé sur lui sans qu'il le sache. Les amis, c'est exactement ça avec notre Dieu, qui est un Père aimant, qui veille sur nous, même si on ne le sait pas, même si on dort, même si on ne voit rien, même si on est dans les ténèbres, même si on est dans des épreuves épouvantables. La chose la plus encourageante qu'on puisse imaginer, c'est ça. Comme ce grand-père. Dieu veille sur nous, tout en chacun. Et c'est à ce Dieu-là que nous aimerions rendre le culte ce matin. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'aimerais laisser la place aux musiciens, à Catherine et sa bande. Merci.
Vous et notre bande. On attend votre participation aussi ce matin. Voilà, ce matin, j'avais à cœur de vous lire le Cantique de Marie. On est à peu près dans la saison du Cantique de Marie. Et ce cantique qui ouvrira après sur un temps de témoignage. Donc, laissez-vous travailler, laissez-vous interpeller si durant ce temps de louange, vous avez envie de partager quelque chose qui a été stimulant pour votre foi, stimulant dans votre vie récemment, la place sera donnée pour cela. Je vous lis dans Luc 1, 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. » Mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Le cantique se poursuit, mais je m'arrêterai là. Seigneur, nous te remettons ce temps de louange. Merci de ce que tu vis dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que tu choisis, tu désires vivre à nos côtés. Et ce matin, dans ce temps de louange, nous voulons te remercier, te dire notre reconnaissance et aussi notre adoration de t'avoir comme Dieu, toi un Père aussi aimant, toujours présent. Amen.
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
Voilà, pour le chant suivant, on attend la participation des jeunes. C'est un chant que j'ai choisi pour ces paroles. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Alléluia, ton amour est là. Ton amour est là.
De douceur et me fait chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton amour est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je me sentais en moi un chant pour mon roi. Don't know.
nous allons prendre encore un chant, une chose. Et suite à ce chant, si des personnes voulaient s'avancer pour témoigner de quelque chose, d'un sujet de reconnaissance, un sujet qui nous encourage aussi dans notre marche individuelle avec le Seigneur. Une chose. Place est libre si jamais il y a quelqu'un qui souhaiterait s'avancer. Tu veux rester là où tu es? Ou bien oui. Ah, oula.
Ça me rappelle être devant vous, ma conversion. Bon, c'était en 84. Et le lendemain, je témoignais devant 500 personnes. En fait, si je suis là, c'est pour vous remercier Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit à tous mes besoins financiers. Et je n'ai pas besoin de demander d'aide à l'État de Genève. Alors, gloire à Dieu pour ça.
Simplement, je voudrais simplement partager quelque chose que j'ai reçu à Forum des Hommes. Et merci Alexandre d'avoir transmis un peu la publicité. C'est vrai que c'est une période aussi où les cheveux blancs arrivent. Et on se dit les activités qu'on est amené toujours à faire, qu'on est un peu toujours sous pression. Comment changer les choses, comment apporter quelque chose, soit à l'église, soit ailleurs. Et c'est vrai que le thème du Forum des Hommes, c'était la transmission. Et ça m'a beaucoup parlé, je crois que j'ai reçu aussi ce message de me dire, où Dieu me disait, mais c'est vrai qu'il y a des choses à préparer, il y a des choses à faire, mais il y a aussi une courroie à transmettre, il y a aussi un coaching à faire, et c'est vrai que j'ai reçu une grande paix dans le fait que de me dire, ben, effectivement, je peux être plutôt un coach, plutôt que la personne qui va organiser, qui va préparer, donc... Je dirais que Dieu m'a ouvert ce rôle un peu de coaching, s'il y a des jeunes, s'il y a quelque chose qui se fait, de pouvoir aider, de pouvoir être avec, de pouvoir accompagner et de pouvoir transmettre un peu une expérience qui a été acquise tout au long de ces années. Merci. Merci.
Merci pour la diversité de ces témoignages aussi qui montrent que Dieu s'occupe de tout. Quelqu'un voudrait le micro ? Marie-Thérèse.
Je pense que la plupart d'entre vous savent qu'on est descendu de notre montagne, entre guillemets, de Crozet, et qu'on est venu à Meyrin. Et ce qui est étonnant de notre Dieu, c'est que nous sommes dans la même maison que Armand et Heidi, sur le même étage et dans la même maison. Et je dois dire qu'il y a des hauts et des bas aussi à cause de maladies dans notre famille. Et Dieu est magnifique, voilà, gloire à Dieu.
Je profite d'avoir le crachoir ce matin spécialement. Alors j'aimerais juste joindre Claude parce qu'il m'a fait tout à coup penser à quelque chose que j'ai vécu à Madagascar. Comme beaucoup parmi vous savez peut-être, j'en ai profité pour participer à une semaine d'enseignement d'anesthésie dans le cadre de Messy Chips. Et j'avoue que je me sentais un peu, en tout cas avant d'y aller, un peu tout petit, de pouvoir enseigner l'anesthésie alors que les gens qui le font, parce que ça se fait en équipe bien sûr, sont plus jeunes et qui ont bien plus de connaissances et d'expérience aussi en anesthésie pédiatrique, parce que c'était le sujet. Bref, depuis quelque temps, le Seigneur me donne comme des flashs de souvenirs, des choses que j'ai oubliées complètement, que j'ai enfuies dans la mémoire, dans le subconscient, et qui me reviennent tout à coup. Et particulièrement, à cette occasion spécialement, j'ai eu des flashs des expériences que j'ai vécues en salle d'opération ou dans ma vie d'anesthésiste jadis, et que j'ai pu partager avec les jeunes médecins auxquels on s'adressait dans cet enseignement. Donc là, je te rejoins parfaitement dans ce rôle de coaching, et j'aimerais encourager tout spécialement les aînés, ayez ce soin de partager vos expériences aux jeunes. Je suis persuadé que la majorité parmi eux n'attendent que ça, c'est que vous puissiez partager ce que vous avez vécu, ce qui vous a rendu, entre guillemets, sage et pas seulement vieux, et dont la richesse, cette richesse-là, on ne la trouve pas dans les bouquins ni dans la vie quotidienne, on la trouve chez les vieux. Voilà. Excusez-moi de me mettre en avance.
Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un ? Tony, viens seulement.
Certains d'entre vous se rappellent que j'ai eu un accident de ski il y a 11 ans de ça, et mon genou était très amoché. On m'a dit, bon, t'as 10 ans tranquille, ensuite tu commenceras les problèmes. Et récemment, c'est vrai, je me suis retrouvée après 4 jours de travail sans pouvoir marcher. Alors bon, le médecin s'est dit, on va faire une IRM, on va voir ce qui se passe. Et au bout de 3 jours, la douleur est partie et ça va bien. L'IRM est vraiment catastrophique. Quand on la lit, on se demande comment je peux encore marcher. Et j'ai des séances de physio qui sont programmées comme ça. Puis la physio, je lui ai amené le résultat de l'IRM. Elle m'a dit, mais vous êtes sûre, vous avez pas mal. Puis je dis, ben non. De temps en temps, oui, mais c'est tout à fait supportable. Et puis, voilà. Et je me suis dit, je ne vais pas me décourager sur une analyse d'une situation. Et en fait, je suis en paix de savoir, voilà, le Seigneur prend soin de moi. Et tant que ça va, et moi, je vais être contente.
Merci.
Bonjour à tous. Je voudrais te remercier pour ce texte que tu as lu ce matin. C'est la dernière partie qui insiste sur l'humilité. Depuis 12 ans que nous sommes ici à Genève, je suis en train de m'approcher moi aussi de la fin de ma carrière et j'ai bien suivi ce qu'Alexandre a dit. Et franchement, pendant les 12 ans, j'ai appris l'humilité du Seigneur. Pourquoi l'humilité du Seigneur ? Au travail, j'avais un collègue franchement, je ne sais pas. Que Dieu me pardonne. Pourquoi? Parce que chaque fois quand je veux voir le diable, j'ai l'impression que c'est cette personne. Et il a franchement rendu la vie très dure, non seulement à moi, mais à toute notre équipe de l'unité de prévention de la cécité à l'OMS. Et pas seulement à l'équipe là-bas, mais à tous les partenaires qui appuyaient ce programme, qui, quand je suis arrivé, était un des meilleurs programmes dans au niveau de notre département. Et franchement, aujourd'hui, ce programme qui avait 12 médecins professionnels, médecins ophtalmo, aujourd'hui n'en a que 2. Et du point de vue appui financier, tous les partenaires sont pratiquement partis. Et tout ce que lui visait, c'était de devenir le chef de cette unité. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas comment je pourrais les comparer. Et l'image qui me vient en tête, c'est quand vous faites des bruits comme ça pour un chien, et nous avons une expression en Afrique qui dit, franchement, la queue se trouve entre les deux cuisses. Et puis, le chien file. Et aujourd'hui, ses collègues, même dans le couloir, ils ne descendent pas. Il avait l'habitude de venir prendre du café, tout ça. Et franchement, il y a 2 professionnels qui sont restés. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Lui qui essayait de me mettre très bas. Et aujourd'hui, j'ai été transféré dans un autre département et je m'épanouis et je suis franchement à l'aise et je suis reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait pendant les 12 ans, passé du moment difficile et je ne sais pas, à la fin, le 31 mai, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si on laissera partir Tony. Hein. Quelqu'un voudrait encore dire quelque chose? Sinon, je vous propose de clôturer ce temps où nous avons pu entendre ces merveilles par le chant qui dit « Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Et Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. » Et je trouve que ce vieux chant, entre guillemets, c'est aussi une confession du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Que ta voix m'habille, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu,
invite à vous rasseoir.
Alors, je vais faire la lecture dans Matthieu 1, 18 à 26. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne te crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus.
Je propose de prier encore. Seigneur, dans ce texte qui nous est connu, pour la plupart, nous te prions de réveiller en nous notre émerveillement de cet événement unique et de parler à nos cœurs de ce que tu as voulu faire, de ce que tu as fait et de ce qui a transformé notre vie. Nous demandons de ce que, par ton esprit, tu élèves nos cœurs vers toi, Seigneur. Amen. Il y aura une deuxième lecture dans un instant, mais je rappelle que nous sommes dans une série où nous visitons des acteurs dans le récit biblique qui ne sont pas forcément très mis en avant. On a regardé la femme cananéenne, on a regardé Uri, le Hittite, et dernièrement, Ebed-Melech, celui qui a osé se démarquer de la foule, avec de grandes conséquences, en tout cas pour Jérémie. Donc, nous poursuivons dans cette idée, mais de qui pourrait-il s'agir aujourd'hui, l'acteur dans ce récit de l'avant de la naissance de Jésus-Christ. On va parler de qui? De Joseph ou Marie ou l'ange. Voilà, on va visiter l'ange parce que c'est l'ange qui vient et c'est Alexandre qui va nous lire un condensé sur qui sont les anges. Premier chapitre aux Hébreux.
Verset 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui que Dieu a désigné pour entrer en possession de tout. Il reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les hommes de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom plus important que le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « C'est toi qui es mon Fils, à partir d'aujourd'hui, je suis ton Père. » Et il n'a jamais dit à propos d'un ange je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. Mais au moment où Dieu allait envoyer son fils premier-né dans le monde, il a dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, Dieu a déclaré, ton trône, ô Dieu, est établi à toujours. Et les versets 13 et 14. Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Que sont alors les anges ? Ce sont tous les esprits qui servent Dieu et sont envoyés par lui pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut.
Alors, ce matin, ce que j'aimerais dire en visitant les anges, ce qu'ils font, c'est de découvrir leurs secrets. Parce que, est-ce que quelqu'un a déjà vécu ou vu ou lu d'un ange qui était stressé? Alors, ils sont dans la paix, même dans la période de l'Avent. Alors, on aimerait, il me semble, découvrir leurs secrets. Donc, mais on va les situer, ces êtres qui sont en dehors du temps. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils ne sont jamais stressés. Parce que, tout comme nous, Joseph, lui, était très préoccupé dans ce temps de l'Avent. Mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Nous pouvons être stressés pour réfléchir comment tout caser d'ici le 25. Lui, à l'approche de Noël, le premier, sa préoccupation était comment être n'importe où, sauf là quand Jésus allait naître. Et c'est là qu'arrive l'ange quand il est en train de réfléchir ainsi. A-t-il simplement rêvé? Mais oui. Mais est-ce que c'est le fruit de son imagination? Alors là, on va dire non. Parce que si on revient quelques mois en arrière, juste après le passage que Catherine nous a lu, ou déjà avant, on peut dire que Zacharie, qui, lui, a vu l'ange Gabriel, là, debout, à la droite, c'est précisé, de l'autel. C'était pas le fruit de son imagination. Ni qu'il soit devenu muet après, comme l'ange lui avait dit. Et Marie elle-même n'a pas imaginé l'ange. Le texte dit pas s'il a frappé ou non, mais qu'il est entré chez elle pour faire l'annonce de cette naissance, de sa grossesse. Et elle n'a pas imaginé non plus qu'elle était enceinte par la suite. Et maintenant, ce messager arrive vers Joseph. Cette fois, c'est vrai, en songe. Franchement, ce n'est pas ce que vous pensez, mais on aurait pu avertir Joseph un peu plus vite. On a nettement l'impression que Marie était informée par WhatsApp et Joseph, lui, reçoit l'information par courrier B. C'est un peu comme nos prières. On peut avoir l'impression que la réponse a été perdue au centre de tri. Courage, Dieu est en dehors de notre temps. Et les anges également. La preuve, est-ce que quelqu'un saurait dire la fois précédente que Gabriel est apparu aux hommes. Et il est apparu à Zacharie, c'est plus ou moins l'année zéro. Il est apparu à Marie, mais avant, il est déjà apparu dans le récit biblique. Est-ce que quelqu'un... Pardon? Adam et Ève, c'est pas dit. Daniel, j'entends. Daniel était sur terre environ 550 ans avant Jésus-Christ. Donc, j'espère que c'est prouvé que les anges habitent en dehors du temps. Ne me dites pas que c'est pour ça qu'ils sont jamais stressés, parce qu'ils sont tellement vieux. C'est pas mon propos et c'est pas le cas. J'aimerais juste te rappeler quelques exemples des anges en mission. Vous vous souvenez quand Dieu a envoyé 3 messagers pour descendre voir ce qui se passe à Sodome. Et ils passent vers chez Abraham. Et Abraham, en les voyant, dit, mais venez, venez vite prendre quelque chose à manger. Asseyez-vous. Donc, il s'installe. C'est un restaurant un peu ombragé parce qu'il fait chaud. C'est midi. Pas de panneau solaire, donc pas de congélateur. Abraham doit aller chercher une bête qui va s'apprêter. Les agriculteurs au milieu de nous savent que ça se fait pas très rapidement. Cuisiner, etc. Ils sont là, attendent devant une mission tellement importante. Ils ont tout leur temps. Quand Abraham décide que c'est le moment pour son fils Isaac d'avoir une épouse, il envoie Eliezer, son serviteur, jusqu'en Mésopotamie, qui n'est pas le pays juste à côté. Donc, à vitesse de chameau, le texte dit que l'ange l'accompagne. Et c'est ainsi que Rebecca sera trouvée. Jamais stressée. Vous imaginez? Jamais pressée, mais toujours à l'heure. Quand Abraham pense que Dieu veut qu'il sacrifie Isaac sur l'autel, il a le couteau qui est déjà prêt. Et puis, l'ange va lui dire, n'étends pas ta main sur le jeune homme. Ouf, en fait, Abraham découvre que Dieu ne veut pas que les pratiques horribles des peuples qui l'entourent soient pratiquées envers ce Dieu que Abraham est en train de découvrir. Et puis si la semaine passée, les jeunes nous ont fait visiter Élie. Élie, tout le pays est en émoi. Il pense qu'il est le seul qui connaît Dieu. Jézabel a ses trousses. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Un ange va préchauffer des pierres, préparer du pain, faire du pain grillé, et puis réveiller Élie pour dire, mais maintenant, il y a un repas qui t'attend. Et il va faire ça, il va le laisser dormir à nouveau et le faire une deuxième fois. Jamais pressé. Dans le Nouveau Testament même, quand Pierre, à la veille de son exécution, est en prison, l'ange arrive, le tape sur le côté et lui dit, mais est-ce que vous voulez vous donner la peine de sortir? C'est vraiment en toute tranquillité. Et réussir ça, pas être stressé dans de telles circonstances, juste avant Noël, comme Gabriel vers Marie, l'ange qui visite Joseph. Est-ce qu'on n'aimerait pas découvrir leurs secrets? Ah, mais vous dites facile pour eux. Eux, ils n'avaient pas Facebook. Ils n'avaient pas le rapport canadien finalisé. Ou pour l'épouse de Tony, Fanny, la prédication ce soir à la cathédrale de Lausanne. Pas facile d'être dans la paix. Mais j'aimerais vous proposer que la réponse est quand même à notre portée. Mais d'abord, après avoir un peu découvert ces êtres en dehors du temps, j'aimerais qu'on regarde aussi ces habitants de plus près, ces habitants d'une autre sphère. De quoi parle-t-on quand on parle des anges? Le terme veut simplement dire messager ces êtres célestes qu'on ne voit pas, ou simplement des envoyés tout humains. Le même terme est utilisé dans la Bible aussi des hommes, des femmes. En tout cas, ce sont des créatures parce que Dieu a créé toute chose qui existe. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi on ne les trouve pas dans le récit de la création, au début de la Genèse? Alors, c'est simple, parce que la Genèse ne rapporte pas l'invisible déjà existant, mais que le monde perceptible, ce que l'on voit. Et eux, ils habitent dans ces autres sphères. Pourtant, les anges seront très présents sur terre à l'époque des patriarches, comme nous avons vu quelques exemples, et par la suite à différentes périodes de l'histoire du peuple de Dieu. Ah, mais dit certains, c'était comme ça à l'époque qu'on s'exprimait. C'était une autre époque. Aujourd'hui, on sait mieux. Le grand théologien Karl Barth, lui, je cite, il est celui qui ne laisse pas de place à l'imperceptible, est en danger de ne pas laisser de place à Dieu. On peut dire au surnaturel si on ne laisse pas la place au surnaturel. En fait, la Bible montre clairement que c'est Dieu qui ouvre nos yeux à ces réalités invisibles. Prenez le cas de Balaam. Balaam, dont l'ânesse était beaucoup plus voyante que le grand voyant Balaam. Et c'est seulement quand Dieu lui ouvre les yeux, si vous connaissez l'histoire, qu'il aperçoit de cet ange qui lui barrait le chemin. Peut-être vous vous souvenez aussi de l'histoire d'Élisée et son serviteur. Les Syriens étaient franchement très embêtés parce que ce qu'ils disaient dans leur conseil de guerre, Élisée répétait au roi d'Israël. Donc ils envoient toute une troupe pour prendre Élisée, et le matin, Élisée et son jeune assistant se réveillent, et puis là où il se trouve est entouré par les troupes syriennes. Au jeune serviteur de dire, mais maître, qu'est-ce que nous allons faire? Élisée, après avoir pris son petit déjeuner, dit, mais attendez que Dieu t'ouvre les yeux. Dieu lui ouvre les yeux et il voit que ceux qui sont avec eux sont beaucoup plus nombreux que ces troupes envoyées par le roi de la Syrie. Des anges là qui étaient présents pour les protéger. Ce serait exactement la même chose pour Saul, avant de devenir Paul. Certains ne voient pas du tout, entendent rien du tout. Saul, oui. Même cas pour Daniel, quand il est au bord de la rivière Kedar. C'est seulement Daniel qui voit l'ange qui lui apparaît. Alors, on revient à notre texte. Nous avons vu que les anges, en tout cas quelques-uns, sont actifs avant la naissance de Jésus. Ils formeront une jolie chorale pour célébrer son arrivée, ça on sait aussi. Ils sont là, prochaine fois qu'ils sont là, à la tentation, ils vont servir Jésus suite à ce temps d'épreuve. Ils attendent un seul mot de la part de Jésus lors de son arrestation. Ne pourrais-je pas faire appel à mon Père qui enverrait 10 légions d'anges? Légions étaient dans les 6 000, 7 000 hommes dans l'armée romaine. Donc, suffisant pour le libérer à l'instant. Et ils sont là, en place, lors de sa résurrection. Vous vous souvenez, les deux Marie qui vont au tombeau et se trouvent un ange où il s'est simplement assis sur la grosse pierre qui vient de rouler. Venez voir. Et puis, allez dire ce que vous avez vu. Parce que ce n'est pas aux anges de dire la bonne nouvelle du pardon de péché que Jésus est venu apporter. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas expérimenté. C'est en faveur des hommes que Jésus agit. Pourquoi vous regardez le ciel? L'ange dit aux 11 apôtres. Mais allez maintenant raconter. Donc, ils sont bel et bien là, les anges, discrets mais efficaces, habitants de notre sphère. Mais je devais vous dire le secret de l'absence de leur stress. On y arrive. Discrets, les anges, mais jamais distrait. Parce que j'aimerais vous proposer qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, les anges ont un seul objectif. Ils ne se laissent pas, eux, distraire, se disperser dans 36 choses. Je rappelle les trois grandes étapes. Une fois que Dieu a fait l'annonce comment l'homme égaré allait être réconcilié avec lui par la descendance de la femme. Eux, ils avaient une tâche, de veiller sur cette famille par laquelle la descendance de la femme devait un jour arriver. Veillez que la promesse se réalisera. Ça, c'est avant. Maintenant, le moment arrive, notre texte, et il devait annoncer les derniers préparatifs. Ta femme a conçu, l'enfant que ta femme a conçu vient du Saint-Esprit. Dernières informations, un peu tard, c'est vrai, mais c'est dans le temps qui est prévu. Et puis, ils annoncent l'événement, ils célèbrent l'événement, comme Alex a dit, la charnière de l'histoire de l'humanité. Et ils annoncent, ce qui dit long sur Dieu, non pas au palais, mais au berger. Et ensuite, ils seront là au service de celui. Eux, ils savent qui est ce bébé. sont à son service, au service de Jésus qui allait effectuer, accomplir ce salut annoncé. Tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et la dernière étape, mais Alexandre nous l'a lu, ils sont maintenant au service de ceux qui doivent hériter de ce salut. Hébreux 1, 14. Ça, c'est leur rôle aujourd'hui. Ils veillent que ce sacrifice inouï de Dieu porte les fruits escomptés. Que pas un seul des enfants de Dieu ainsi rachetés se perdra. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on se réalise personne par personne qui découvre ce salut, qu'il y a cette fête, cette joie dans le ciel, parce que ce projet de Dieu se réalise et se réalisera. Eux, ils savent, ils ont su depuis toujours qui est celui qui est venu. Dieu lui-même, tu l'appelleras. Maintenant, c'est Matthieu qui parle au verset 23. On donnera le nom d'Emmanuel. Il cite la prophétie qu'il annonce d'avance. Ce qui se traduit, Dieu avec nous. Dieu lui-même s'intéresse à nous, les hommes, avec toute tendresse. Dans les cercles angéliques, ça discute, c'est inimaginable que Dieu ferait une telle chose. Dieu lui-même avec nous, se faisant homme, ils disent même pas ange, pour être proche de nous. L'humiliation consentie, presque incroyable. Dieu lui-même qui s'offre en sacrifice, les anges déchus sont abasourdis, mais les autres ne cesseront jamais de chanter sa gloire. Donc ils sont discrets, oui, mais simplement parce qu'ils veulent en rien cacher, faire ombre à la splendeur de celui qui devait venir et maintenant est venu et qui reviendra chercher cette grande famille. Discret parce que ils savent que celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Si on avait lu plus loin en hébreu, on l'aurait lu. Il est infiniment au-dessus de tout ange, principauté, pouvoir. Discret, mais pas distrait. Parce qu'il reste focalisé sur l'essentiel. Vous imaginez les anges, pour conclure, qui nous observent aujourd'hui, stressés pour courir les magasins. Préoccupés finalement par des choses qui, au lieu de contribuer à notre bonheur, l'étouffent. Est-ce que ce n'est pas en revenant sur l'essentiel, comme les anges, que les autres choses trouveront plus facilement leur juste place? En fait, dans ce temps de l'Avent, n'est-ce pas de ça que nous voulons nous souvenir? L'arrivée de Jésus, de garder ça au centre de notre vision aussi, de ne pas nous laisser distraire, pas trop nous laisser nous disperser. Il me semble que ça pourrait aussi être une source de paix pour nous aussi. Mais, en fait, je termine en disant, il y a deux grandes réalités. Vous avez compris, je ne voulais pas parler des anges, je veux parler du Seigneur Jésus et sa venue. Il y a deux grandes réalités qui se déroulent en parallèle. Il y a l'histoire sur la terre, extrêmement mouvementée, stressante. Et il y a la réalité invisible, dont l'issue n'est jamais en question. Et ça, les anges le savent. Tranquille, ils diraient, c'est fait. Et ça se fera. Le plan de Dieu se réalisera. Se réalise et se réalisera. On pourrait être tenté, et c'est aussi la conclusion de la Bible, d'adorer les anges. Et ils disent chaque fois, surtout pas adorer celui qui est venu et qui a porté un si grand salut. Alors je propose, c'est ce que nous faisons, nous ferons maintenant. Juste prendre un temps de nous arrêter sur la merveille de l'accomplissement du projet de Dieu, d'élever notre regard au-dessus du brouillard. Le brouillard s'est levé, le soleil est là, et célébrer ce grand salut que Dieu a opéré pour chacun de nous. Nous prions, et puis c'est Alexandre qui terminera ce temps de prière libre. Seigneur, tu t'es abaissé pour un peu de temps en dessous des anges quand tu as pris la forme d'un être humain. Mais nous te contemplons maintenant souverainement élevé. Te louons, Père, parce que ce salut acquis, rien ne peut nous l'ôter, ni les anges, ni les principautés, mais rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous te bénissons de ce que aujourd'hui et pour l'éternité, nous sommes à toi grâce à celui que tu nous as donné, Jésus. Amen.
Sans même qu'on le sache, que nous puissions lever nos regards au-delà, que ces anges qui sont tes agents ne puissent jamais faire l'ombre à ta gloire. Mais qu'au contraire, Seigneur, merci, parce qu'ils contribuent à cette gloire. Amen.
Merci d'avoir choisi Marie, une jeune femme, une jeune fille. ce matin, que toute ma famille puisse vraiment attendre ta voix, là où ils sont, Seigneur. Que les anges, Seigneur, puissent vraiment aller, Seigneur, porter cette nouvelle dans leur cœur. Alors je te loue ce matin, je te rends grâce. Parce que sans toi, oh Seigneur, la vie n'a rien de spécial. C'est avec toi qu'il prend tout son sens. Je te loue et je te rends grâce de tout mon cœur ce matin. Au nom de Jésus, amen.
Seigneur Jésus, donne-nous un temps, Seigneur, où dans nos familles nous puissions retourner à l'essentiel, retrouver l'essentiel, Seigneur, ta naissance. Seigneur, j'aimerais aussi te prier pour ma famille, Seigneur, que ce temps de ce petit enfant qui est né, qui a changé tellement de choses, Seigneur, puisse être aussi un temps béni, un temps de témoignage. Seigneur Jésus, ouvre ce temps, Seigneur, je te le demande, que dans nos familles où la foi n'est pas forcément très présente, Seigneur, nous puissions avoir ce temps où on peut parler de toi. Amen.
Et Seigneur, nous voulons te dire merci encore. Merci pour ce message qui nous rappelle combien ta création est parfaite. Que tu as créé non seulement des choses concrètes et pratiques, palpables, mais que tu as créé aussi les anges qui égayent et qui illuminent nos chemins, nos vies. Merci encore, Seigneur, de ce message. Merci de ce que nous pouvons et nous puissions le vivre encore par la suite et surtout pendant cette fête de ta naissance. Amen. On va d'abord chanter à l'introduction de la Sainte Cène. Merci aux musiciens. Et ça sera le chant numéro 382, au Calvaire. Avant de prendre la Sainte-Seine, j'aimerais pas partager avec vous encore une pensée. Je pense que vous êtes comme moi, ou en tout cas la majorité parmi vous, admiratifs des œuvres d'art parfois magnifiques, que ce soit des peintures, de la littérature ou des morceaux de musique, voire même des films à l'écran, qui décrivent la passion de Jésus-Christ. Et il y a parfois même des chefs-d'œuvre parmi ces œuvres-là. Mais il y a quelqu'un, aussi un artiste d'ailleurs, mais roi par-dessus le marché, qui s'appelle David, qui 900 ans avant la passion l'aurait déjà décrite. Je vais vous lire le psaume 22, que vous connaissez sans doute, ou du moins quelques extraits. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et un peu plus loin, et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Et un peu plus loin. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils pourraient compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. C'est fantastique quand même. Tout ça 900 ans avant la passion de Jésus. Seigneur, nous te remercier encore. Remercier pour ta naissance, mais surtout remercier pour ta passion. Pour ta mort qui a permis que nous soyons vivants, que nous ayons la vie éternelle. Et pour cela, il a fallu que nous soyons purifiés de nos péchés. Nous n'avons pas pu le faire nous-mêmes. C'est toi qui l'as fait à notre place. Merci encore, Seigneur. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Tout d'abord, il y a le pain que nous allons rompre et il y a le vin que nous allons prendre. Le vin est sous forme de petites coupelles. Au milieu, il y a du vin sans alcool. Et il y a une coupe que vous pouvez prendre si vous le désirez. Il suffit de lever la main. Alors, nous laissons Thierry, nous laissons lire le texte qui va accompagner la Sainte-Seine. Voilà.
Je vais lire donc en Matthieu 11, 26. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père.
nous avons désiré dire, Seigneur, tu es notre essentiel. Nous te prions de nous aider à nous focaliser premièrement sur toi pour permettre aux autres choses que nous devons porter, que ces choses trouvent leur juste place. Nous te bénissons de ce que tu as manifesté ton désir d'être avec nous en Jésus. Amen.
Amen.
Et un moment critique est arrivé, comme vous vous en doutez. C'est le moment de l'offrande. Vous savez que de cette offrande vont vivre d'abord notre pasteur et sa famille, nos envoyés aussi un peu dans le monde, mais aussi les œuvres auxquelles nous contribuons et qui font avancer l'œuvre du Seigneur. Alors je vous invite à la générosité. Je vais passer les pochettes, mais il y en a aussi ceux qui payent directement par les chèques postaux.
Et j'annonce le chant. Pour adoucir la facture, on est dans le gemme 551.
Tout à toi, que ma vie soit tout.
Oui, Seigneur, je veux te remercier pour cet argent qui fait partie de nous. Nous avons chanté tout à toi et cet argent t'appartient également. Nous voulons te prier que cet argent puisse aller à ceux qui en ont besoin. que cet argent aille pour avancer le royaume de Dieu. Merci Seigneur, merci encore. Nous le bénissons en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Et nous nous acheminons vers la fin du culte. Il y aura des annonces probablement nombreuses parce qu'il y a le mois de décembre qui commence et il y a beaucoup d'activités. Merci Michel de s'en charger.
Voilà, ça démarre. Alors, tout à l'heure, le repas canadien, vous êtes les bienvenus. N'ayez pas peur, il y a toujours trop, donc il faut finir les plats. Aujourd'hui également, ce soir, à la cathédrale, Objectif Terre, avec, comme l'a déjà annoncé Roger, la prédication par Fanny Wuketi. Et vous voyez qu'il y a également Jean-Jacques Mélan et Cédric Chanson qui sont impliqués, donc une large participation de gens proches ou de notre Église. Mardi 8 décembre, c'est le repas de l'Avent du fil d'argent à 11h30, avec une animation ensuite. Cette semaine sera distribuée, ou a été distribuée, je sais qu'à Versoix ça a déjà été le cas, cette semaine est distribué le quart d'heure pour l'essentiel dans la commune de Mérin. C'est notre église qui a sponsorisé la distribution. C'est un sujet de prière, c'est aussi un sujet de discussion, puisque vous pouvez en avoir des exemplaires supplémentaires qui sont à la sortie. Si vous voulez diffuser cette publication qui est extrêmement bien faite sur le thème de la fête, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Et il y a vraiment des articles de qualité. C'est une possibilité d'entrer en contact avec des collègues ou des voisins. Dimanche prochain, notre invité sera et prédicateur sera Gérard Pella, le mari de Damaris Dubat, qui a fréquenté pendant de nombreuses années l'église de Mérin. Action de Noël. Vous savez que la FRE fait chaque année une action, une collecte particulière pour une action de Noël. Cette année, l'action de Noël est autour du projet mis en place par Jean-Claude et Licia Saillant. C'est ce flyer-ci, Réfugiés en Italie, guérir ceux qui ont le cœur brisé, un projet d'accueil. Il y a une boîte à disposition à la sortie, juste à gauche de la porte, là, avec le même flyer, dans lequel vous pouvez déposer une offrande spéciale pour cette action de Noël. Et je vous rappelle qu'il y a ce projet de visite de Jean-Claude et Licia à Scandicci, donc dans la banlieue, dans l'approche, Fucecchio, pardon, dans l'approche région de Florence, pour justement découvrir cette action qui s'appelle l'arbre de vie. Liste d'inscription pour ce voyage est affichée sur le panneau blanc que vous trouverez à la sortie. Dimanche 20 décembre, c'est notre fête de Noël. À 15h30, il y a là un petit papillon très bien réalisé qui vous permet d'inviter, si vous voulez inviter, des amis à cette fête de Noël. Musique, théâtre, vidéo, chorale, collation et vin chaud. Donc collation, on arrive à... Voilà, pour la collation de la fête de Noël. Pour la collation de la fête de Noël, il faut des pâtisseries salées et sucrées. Alors vous verrez qu'à l'extérieur, autour de la colonne, vous avez peut-être vu en entrant, il y a un panneau qui est une pyramide, je ne sais pas comment on décrit cette forme exactement. Un Toblerone, voilà, ouais, c'est un Toblerone vertical sur lequel il y a des post-it avec justement des pâtisseries salées et sucrées que vous pouvez réaliser pour fournir la collation de la fête de Noël. Donc vous pouvez prendre des post-it sur ce tableau qui est à la sortie. De la même manière, il y a également pour le bon déroulement de la collation, on a besoin d'aide, 12 personnes pour préparer et installer et 4 personnes pour nettoyer ensuite le foyer. Vous pouvez vous inscrire auprès de Claire-Lise Seré ou vous pouvez également vous inscrire sur un panneau qui est disposé à l'extérieur. J'ai un peu de peine à essayer de vous situer les choses, mais vous verrez, c'est sur un grand panneau blanc. Il y a le voyage en Italie et la possibilité de s'inscrire pour l'aide, pour la collation. Il y a également des pétitions que vous pouvez signer que tu as, Roger ? Où sont les pétitions ? Voilà. Alors, Zena nous invite à signer une pétition qui s'oppose à la création, à la mise en place d'une maison close à Mérin. Vous voyez qu'effectivement, on n'est pas très, très favorable. Et puis, Denise nous propose de soutenir les émissions religieuses de la RTS, donc la radio-télévision suisse, a décidé de supprimer tout son volet émissions religieuses et il y a une pétition qui est en cours pour maintenir ces émissions religieuses. Voilà, il y a 2 pétitions donc à signer. Vous pouvez les découvrir auprès soit de Zena, soit de Denise Félix. Ah ouais, ça c'est moi. Alors là, il n'y a rien d'écrit. Oui, je voulais vous donner une information en relation avec les Roms qui demandent des aumônes là à la sortie. On a remarqué depuis 2 dimanches que leur comportement, particulièrement le comportement du monsieur, avait changé et qu'il était devenu beaucoup plus agressif lorsque l'on n'accédait pas à ses demandes. Ce que nous, on a demandé et qui leur a été clairement dit, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait de demande d'argent à l'intérieur du bâtiment. À l'extérieur, ok, mais pas de demande d'argent à l'intérieur du bâtiment. Lorsque Roger leur a signifié, pour la deuxième fois en tout cas, cette contrainte, en fait, le monsieur s'est emporté et a été verbalement très agressif. C'est pourquoi nous vous demandons vraiment de respecter cette règle, pas de transaction financière, si on veut bien, pas d'aumône à l'intérieur du bâtiment. Et si vous voyez qu'il y a des pressions qui sont exercées ou de l'agressivité, venez le dire et puis nous irons auprès de ces gens pour leur signifier cette règle. Voilà. Il y a encore une dernière annonce que Sylvain peut-être, éventuellement, peut-être.
Voilà, alors Jessica, la femme de Joël, a accouché hier matin. Voilà, donc le bébé va bien, c'est un garçon qui s'appelle Ezra Miles, voilà. Il pèse 1,270 kg, si vous voulez tout savoir, donc voilà. On est à 11 semaines du terme, mais tout va bien. Voilà.
Voilà, notre culte arrive à sa conclusion. Je vous invite de vous lever. Parole d'ange, paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée. Que nous puissions tous connaître, recevoir cette paix qui nous est promise et donnée par le Saint-Esprit qui nous est maintenant aussi accordé en Jésus. Paix sur nous, bon dimanche et bientôt joyeux Noël. Donc les chaises à déplacer, s'il vous plaît.